LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Alors, archivage de la collection 2023. Alors, on commence avec le numéro 9 de la collection française.
On a des jolies petites fesses dans un champ. C'est séduisant.
Le blé en herbe qui se reflète sur ses fesses et fait des petites ombres un peu mouchetées.
Un homme derrière un rideau bleu, c'est très bleu.
Un sexe au repos et des épaules.
C'est une photographe qui avait déjà contribué en la première année, je crois.
On écoute son témoignage.
Alors, je l'ai rencontrée et je suis devenue obsessionnelle. Je voulais capturer la moindre fossette, les veines, son bronzage, le grain de sa peau, sa queue après l'amour. Je le photographiais dans ces périodes de passion où tout était intense, beau, plein de désir. Jamais en dehors. Ce sont des images un peu menteuses qui façonnaient ce fantasme que j'avais de lui, ce corps parfait qui alimentait l'obsession. L'érotisme pour elle, c'est capturer l'autre, le magnifier, l'attraper dans mes filets en lui montrant sa beauté.
Alors, du coup, quelles photos on choisit ?
Alors, moi, j'aime bien les fesses dans les blés, ce côté extérieur aussi.
C'est vrai qu'elle est plus originale, celle dans les champs.
Ouais. Allez, c'est validé.
On est d'accord pour celle-ci. Alors,
du coup, Être un bonhomme. Une série documentaire de Romain Debecq-Delièvre et David Jacubovies.
On a des fesses.
Territoire.
Épisode 4.
C'est pour
performer des modèles.
Et obsession, peut-être, parce qu'elle en parle elle-même.
Allez.
Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce projet et de ce collectif Lusted Men?
Alors, on est en 2019. On est plusieurs femmes d'une petite trentaine d'années à se réunir autour de la question vraiment très simple: où sont les photographies érotiques d'hommes?
Laura Lafont, membre du collectif Lusted Men.
On vient de professions différentes. On n'est pas toutes dans le champ de l'art ou de la photographie. Et ça vient vraiment d'un désir de se demander, en tant que femme hétérosexuelle, je rajouterais aussi qu'on est des femmes cisgenres et blanches, on ne sait pas où sont ces photos et finalement on a envie de questionner notre désir, de questionner l'érotisme et de se poser la question en fait qu'est-ce qui moi m'émeut, qu'est-ce que j'ai envie de voir comme photographie, et on se rend compte que des images existent mais qu'elles ne sont pas forcément diffusées, qu'elles ne font pas partie de notre culture dominante. Donc on lance une collecte en disant envoyez-nous vos photos.
Et on s'attend à recevoir des images, peut-être des dick pics. Enfin, on ne sait pas vraiment ce qui va nous arriver.
Lucie Brugier.
On a quand même sondé un peu les personnes autour de nous, à savoir si elles connaissaient ces images, si elles les faisaient, si elles les consommaient. On a eu cet été-là les premières discussions autour des hommes et des images dans nos cercles proches, assez passionnantes, des amis à nous qui nous disent que les hommes sont moches, qu'ils aiment regarder les femmes, mais pas du tout les hommes, que eux, oh non, ils se feront pas prendre en photo parce que c'est trop intime, qu'ils ont un regard sur eux très dur. Voilà, c'est le début un peu de cette démarche, même pour nous, de comprendre où sont ces images d'hommes. On disait qu'on avait comme image de l'homme, des hommes, enfin non, peut-être du coup à l'époque de l'homme, cette espèce de grand archétype qui n'existe pas, les photos des dieux du stade, des photos de parfums. Éventuellement, on est allé jusqu'à dire qu'il y avait les calendriers de pompiers. Bon. Mais voilà, quelque chose qui soit très très normé. On parlait de l'extérieur, de l'homme qui agit, de l'homme qui est fort, donc de la musculature, de la stature, de la posture, quelque chose donc qui représenterait ces traits complètement imaginaires et construits de la masculinité, quelque chose qui soit pas intérieur en tout cas, pas intime, pas vulnérable. Voilà.
Et pas à l'image en fait des hommes que j'en désirais. Et puis, il y avait aussi tout le pan de l'homoérotisme, qu'on savait que cette production existait, mais c'est comme si ces photos, en fait, on savait qu'elles n'étaient pas destinées pour nous, elles n'étaient pas produites pour nous. Donc moi, je me rappelle en fait que j'étais pas spécialement touchée par ces images-là, puisque je me disais, en fait, c'est pas ma sexualité. Donc il y avait quelque chose de très segmenté.
Non, je ne bois pas de lait.
Vous ne buvez jamais de lait?
Jamais, non. Le lait, c'est bon pour les bébés. Un homme, ça boit de la bière. Je rêvais toujours en termes de puissance. Faire de grosses affaires, être le roi des tombeurs de filles, enfin, des trucs comme ça. Ce qui m'a toujours fasciné, ce sont les hommes dont on se souvient pendant des siècles. Ou mieux encore, tiens, Jésus par exemple, des milliers d'années, ça c'est quelque chose, non ?
Et le vainqueur, le seul et unique Arnold Schwarzenegger.
Moi, je viens d'une génération, des années 80, où les films avec un leader charismatique masculin étaient très présents. Alors,
Guillaume Vallet, professeur d'économie.
On a parlé des
pratiquants de la musculation,
des Rocky, des Rambo, mais Terminator, d'une certaine manière, est aussi un modèle. Donc Schwarzenegger, pour moi, je fais partie de ceux qui considéraient qu'il était le dieu, d'une certaine manière, à suivre pour imiter ce qu'il a pu faire, reproduire ses techniques d'entraînement et puis essayer quelque part, d'exister comme lui, il a pu le faire grâce à ses muscles. Donc j'ai été très influencé par rapport à ça. Et forcément, on a une certaine norme qui se construit par rapport aux muscles, où on se dit rapidement que c'est ce type de volume musculaire-là qu'il faut atteindre, comme une espèce de quête idéale pour pouvoir exister. Alors, bien sûr, Schwarzenegger est au sommet de cette pyramide-là, même s'il a été dépassé aujourd'hui par d'autres champions du bodybuilding. Mais on pourrait dire qu'aujourd'hui, vous voyez, pour les jeunes hommes qui rentre dans cette logique-là de l'imaginaire. On va de Cristiano Ronaldo, plutôt sec, avec un certain volume musculaire, mais pas extrême, à, je dirais, Dwayne Johnson, beaucoup plus massif. Et cette échelle-là, Ronaldo, Dwayne Johnson, finalement, c'est aujourd'hui la concrétisation de cet imaginaire autour du muscle chez les hommes.
Il y a vraiment...
Daisy Le Tourneur.
Quelque chose de super intéressant quand on voit, quelque part, quels corps sont à la mode. Si on regarde les stars d'Hollywood jusqu'aux années 80, c'était pas des bodybuilders. C'est vraiment un truc qui est arrivé dans les années 80 avec Stallone, Schwarzenegger et quelques figures comme ça, que d'un seul coup, on a eu une sorte de mise en scène du corps masculin, viril, parce que musclé. Qui correspond à un moment historique précis de retour des valeurs conservatrices très fort à l'ère Reagan, qui depuis connaît des fluctuations. On sait aujourd'hui que beaucoup d'acteurs hollywoodiens qui vont par exemple jouer dans un film Marvel, et ben la préparation, c'est pas de réfléchir à la psychologie de Captain America, c'est de faire énormément de muscu et de boire beaucoup d'eau et de tout pisser pour avoir un corps super sec, des muscles saillants pouvoir pendant les trois plans du film où on n'est pas engoncé dans un costume d'effets spéciaux, montrer qu'on correspond à cet idéal aujourd'hui qui est un idéal de pouvoir par le muscle.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une performance globale du corps masculin.
Michael Delis.
Qui est ce truc-là, là, typiquement cette injonction de la puissance, de la virilité.
Comédien, auteur et metteur en scène.
Ce qui est assez marrant et tragique, c'est que pour performer mon genre d'homme, je dois être performant. Donc tu dis, mais c'est épuisant. C'est qu'en fait, on est voué à la fatigue et à un truc qui est... en plus, complètement stupide. Et bien sûr qu'à des moments, on doit être tendu, actif, et que cette puissance, elle est porteuse. Si on le prend juste d'un point de vue strictement nietzschéen, c'est un appel, c'est un élan. Mais la performance du modèle masculin, elle est communément acquise comme relevant d'un seul modèle précis, alors que de fait, il y a mille façons de performer le genre masculin. D'être masculin, c'est des masculinités, c'est des féminités, mais il y a cette friction avec le concept dominant qui fait qu'on dit non, il y a Ken. Il y a Ken avec du fric, et c'est tout. Et alors que non, putain, heureusement qu'il n'y a pas que ça, parce que ça donne un ennui notoire. Mais oui, le pluriel, il est tout neuf en termes de représentation. Alors qu'en fait, comme le féminin, c'est un pluriel qui recouvre une myriade de possibles. Et c'est ce qui rend le truc en plus très rigolo. L'altérité, la différence et toutes ces complémentarités. Sinon, on s'ennuierait follement, quoi.
Ah, très rigolo.
De la guitare avec une poêle.
C'est quoi ? Il vide le lave-vaisselle.
Il vide le lave-vaisselle.
Et il joue avec une casserole qui cache son sexe et qui se transforme en guitare.
Par il fait la même du air guitare nu, avec une poêle.
Il est grand sourire, ça fait plaisir aussi, les hommes qui sourient. Donc, quel type de relation entretenez-vous avec la ou les personnes représentées ?
J'entretiens avec moi-même une relation d'amour qui augmente avec le temps. Je cherche aussi à stimuler mon autodésir et mon auto-érotisme. J'ai réalisé cette photo avec ma partenaire. Mon envie était de renverser les codes de ce qui se trouve à la cuisine et de ce qui s'y passe. Je le ressens aussi comme une manière de m'approprier mon corps, ma masculinité, après des années à me brider et à me retenir d'être « homme ». Entre guillemets.
Session de travail du collectif Lusted Men, collection ouverte de photos érotiques masculines.
Alors là, on est sur un animation d'un tigre. Donc c'est un homme un peu comme s'il venait de faire du yoga, peut-être. En tout cas, il est sur une serviette par terre et il nous regarde, regard caméra, en mimant le félin.
Mais d'ailleurs, il y a un poster de tigre derrière lui.
Ouais. De voir ces photos, de les recevoir, de les travailler en collectif, de les regarder ensemble et de se dire « Ah, mais tiens, moi, j'avais pas du tout imaginé que ça, cette photo, donc cette situation pouvait exister, que cet homme-là pouvait m'émouvoir, que je pouvais vraiment fantasmer finalement sur ça. Je ne le savais pas parce que je n'avais pas accès à ces représentations-là. »
Laura Lafont, membre du collectif Lusted Men.
Et pour rebondir sur l'invisibilisation des hommes, moi, je dirais plutôt qu'il y a ce côté où les hommes, finalement, n'ont pas conscience d'avoir un corps. Et les seules photographies d'hommes qu'on a, enfin souvent, c'est des hommes finalement en costard, c'est des hommes qui vont représenter le pouvoir, c'est des hommes qui vont être dans leur rôle, en fait, social.
Les jeunes hommes, aujourd'hui, sont... On leur montre que des modèles d'hommes qui réussissent inatteignables, que ce soit leur footballeur préféré, leur chanteur ou rappeur préféré, ces mecs-là sur les réseaux.
Pauline Ferrari, autrice de Former à la haine des femmes.
Bien sûr, il y a quelques success stories de méritocratie républicaine, de celui-là était super doué à l'école, celui-là était super doué au foot, il a réussi à s'extraire de son milieu social, de sa condition et tout. Mais en fait, on sait très bien que les trois quarts des gens ne deviendront pas un Kylian Mbappé, ne deviendront pas un entrepreneur de génie à la Elon Musk. Enfin, on le sait très bien.
Et au final...
Audrey Voile, sociologue du travail.
C'est quand même des modèles qui sont très exigeants à incarner, qui pèsent aussi, et que peu d'hommes peuvent se permettre d'incarner. Et quand bien même, en fait, on les incarne, il y a toujours plus performant, il y a toujours plus riche, il y a toujours plus cool, il y a toujours plus intelligent. Et donc, c'est une course sans fin, finalement, à qui incarnera la masculinité hégémonique. Et je ne sais pas si aujourd'hui quelqu'un l'incarne vraiment. Et c'est pour ça que les hommes s'échinent autant à essayer de l'incarner. C'est parce que personne ne l'incarne. Et en fait, faire douter les hommes de pouvoir l'incarner, c'est s'assurer à ce qu'ils prouvent sans cesse leur masculinité. Et c'est en ça où la précarisation du marché du travail, ou le fait que le marché du travail soit instable, ou le fait qu'il soit parfois inquiétant ou stressant, ça participe aussi du fait que les hommes cherchent sans cesse à prouver quelque chose. Parce que justement, ils sont pas dans une position si évidente que ça au travail. Et on imagine toujours comme ça les hommes comme une masse uniforme de dominants. Mais on s'interroge jamais sur ce qu'on attend des hommes aussi au travail et la pression qu'ils peuvent avoir ou la pression à la réussite qu'on leur fait peser. C'est aussi des salariés qui sont pris dans une toile d'injonction où ils doivent prouver sans cesse leur valeur. Et ça, c'est quand même assez frappant de le voir. On peut vanter l'amélioration des conditions de travail, le management humaniste, etc. Mais on a quand même formaté les garçons et les hommes à rejeter l'idée de faiblesse, à rejeter l'idée d'échec, à l'idée qu'il fallait réussir pour être quelqu'un. Dans tous les hommes que j'ai pu interroger, avoir la pression, réussir, ça revient comme un leitmotiv dans tous les discours, même dans le discours des dirigeants, et ça les fait presque parfois suffoquer, à tel point c'est prégnant.
Kevin Fang, étudiant ECG1 au lycée Jacques Decourt.
Du coup, Noam Diallo, étudiant en ECG1 au lycée Jacques Decourt.
David Bolamba, étudiant en ECG1 au lycée Jacques Decourt.
On est plus précisément en classe préparatoire pour les grandes écoles de commerce, du coup éco-gestion, et on est en première année. L'objectif, c'est de nous préparer pendant 2 ans au concours d'entrée aux écoles de commerce comme HEC, etc. Et personnellement, Je vise le meilleur HEC, quitte à prendre une filière exigeante, autant viser le plus haut. Là, actuellement, on n'est pas encore des hommes, très clairement. Parce que, comme je l'ai dit, le rôle d'un homme, c'est d'assurer la stabilité d'une famille, d'un foyer ou de toute autre chose. Et là, clairement, on n'est pas prêt, mais on est en train de le devenir. On est en train de le devenir. Personnellement, vu que je suis issu d'une famille monoparentale, ma mère, c'est la seule personne qui travaillait dans ma famille jusqu'à ce que mon frère arrive au lycée où il a commencé à travailler aussi. J'ai rien contre que les femmes aient de grandes carrières, des ambitions, etc. Mais ça ne veut pas dire que nous, les hommes, on doit arrêter de travailler pour autant. Je pense que même si ce sera toujours à l'homme d'entre guillemets, enfin, assumer une certaine part, une certaine stabilité dans la vie de famille, et cette stabilité, elle vient aussi par l'argent. Du coup, c'est important de travailler et c'est important de travailler plus dur. Et moi, ça me dérange pas, c'est normal. En fait, j'aimerais bien passer du temps avec ma famille et tout, mais je sais pas pourquoi, je sens que de l'autre côté, ma femme, elle serait peut-être pas heureuse. Elle, à un moment, elle pourrait se dire, qu'est-ce que je fais avec cet homme qui travaille pas, qui est tout le temps à la maison, ce genre de trucs.
Moi aussi, je suis d'accord avec lui. Hein. Bon, moi, j'ai énormément vécu avec ma mère, hein, une semaine sur deux. Ma mère, c'est une vraie travailleuse. Donc, j'ai eu aucun problème à voir une femme à faire les mêmes études que nous, voire même des études, de meilleures études, hein, j'ai envie de dire. Hein. Que ce soit ma sœur, aujourd'hui, qui est déjà en école de commerce, je suis un peu ses pas. Hein. Et puis, je trouve ça normal. Et je pense qu'honnêtement, si les deux personnes dans un couple travaillent, tout se porte bien, je pense.
De nos jours, il y a des personnes qui définissent la masculinité comme moi je l'envisage, comme étant une espèce de masculinité toxique. Et dans notre société, je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment un mouvement qui dit que, en gros, c'est ok d'être des hommes entre guillemets faibles. Et c'est ça que j'aime pas. C'est un truc qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux ces temps-ci.
Du coup, je reviens à ce que dit mon camarade. J'ai une copine et j'ai eu l'occasion, enfin on parle beaucoup, et j'ai eu l'occasion de lui en parler. Et je lui ai dit honnêtement, enfin moi je pense qu'aujourd'hui une femme recherche un homme fort. Ce que je veux dire, c'est que un homme qui assume qui il est et qui prend des décisions. Je ne dis pas par exemple d'obliger la femme à faire quelque chose, mais on va lui poser une question à l'homme. La femme n'a pas forcément envie qu'on lui réponde « je ne sais pas ». Ça, j'ai vraiment remarqué ça. Du coup, je lui en ai parlé et tout. Même si, pour une femme, c'est dur d'assumer ça. Aujourd'hui, c'est la vérité. Les femmes veulent des hommes qui sont forts, qui peuvent, en quelque sorte, s'occuper d'elles. Même si on essaye de... Je trouve, en tout cas, aujourd'hui, on essaye un peu de cacher la réalité. Alors, je dis pas que toutes les femmes sont comme ça. Mais la majorité, en tout cas.
Un homme faible, comme l'a dit Noam, c'est quelqu'un d'indécis, d'instable. Et cette instabilité, elle se manifeste dans beaucoup de choses. Par exemple, un homme trop impulsif, trop émotionnel, c'est quelqu'un de faible pour moi. Parce que quand on veut assurer la stabilité d'un foyer, de n'importe quoi, il faut réfléchir de manière rationnelle. Et ça se fait pas en se laissant guider par ses émotions. Il y a de la place pour laisser ses émotions, mais ça doit pas se faire... constamment et surtout pas en public. Parce que c'est normal. Tout le monde, on n'est pas des machines. Il y a des moments où on peut lâcher. Mais si on veut se garantir une stabilité de vie, c'est pas en se plaignant pour tout et n'importe quoi. Il y a des choses qu'on peut endosser. Et vu que on est censé être des hommes, on doit les endosser. On doit prendre sur nous des fois.
Moi, je voulais juste dire que... Quand on se met à deux, c'est pas pour gérer les problèmes seuls. C'est quand on est deux, c'est pour s'entraider entre nous. Oui. Et pas laisser une personne, par exemple, dans le mal, parce que c'est un homme ou il doit faire tout ça tout seul. Mais il faut l'aider, quoi. Enfin, quand on a un problème et que c'est grave, c'est mieux d'en parler que de le garder en soi, parce que si c'est vraiment grave. Même en parler, ça peut déjà nous soulager. Mais si on le garde trop longtemps en soi, ça peut plus nous détruire mentalement que, Enfin, c'est mieux d'en parler.
La peur dont je parle dans Le silence des hommes, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas répondre aux attentes, la peur de ne pas représenter ce qu'on voudrait représenter. Cette peur-là, elle est pour moi, elle est criminelle. Ce qu'on s'inflige et ce qu'on inflige aux autres parce qu'on a peur de ça, c'est vraiment terrifiant. Et moi, je pense qu'on devrait plutôt avoir peur d'abîmer l'autre.
Des deux cabales.
Peur de s'abîmer soi, peur d'abîmer tout le monde.
Auteur du spectacle, Fêlure ou Le silence des hommes.
Ce que je veux dire, c'est que... Oui, les hommes sont en souffrance. Par contre, ce qu'ils en font pose problème. Pose problème à la société entière. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est... Comme par hasard, dans ce monde avec différentes strates de castes, il y a une caste, les hommes, à qui on dit « t'es le plus fort, te laisse pas faire, écrasez tous, t'as pas mal, ça c'est rien, on se plaint pas ». Et comme par hasard, c'est cette caste qui est la plus violente. Et ceux qui transforment cette violence reçue, qui ont accès à la souffrance que ça procure et qui fabriquent des autres outils pour être violents, bah, c'est la fin en fait. C'est la fin du cercle. Et donc ça se reproduit. Et parce que si la conclusion c'est que dans ce monde, il faut être fort, ben, ça va continuer à se tendre, ça va continuer à se durcir. Et, ça va... et pourquoi après on dit, oui, les jeunes, ben, ils sont sexistes, ils sont. Enfin, et on fabrique ça au quotidien, en fait. Et c'est cette incapacité à nous regarder honnêtement dans le miroir qui pose problème.
Il arrive que le modèle craque, le modèle de masculinité. Et c'est très dur de ce que j'ai pu voir chez un certain nombre d'hommes que j'ai interrogés. Non pas seulement parce que la situation est dure, mais parce que aussi ça les touche dans leur identité masculine. À la fois parce qu'on les a éduqués dans l'idée qu'être un homme, c'était avoir un travail, être performant, être fort mentalement, ne pas exprimer ses émotions, et tout d'un coup, le corps lâche. Et donc, ils sont obligés de parler et se confronter à leurs démons. Et quand ils n'arrivent pas à le faire, ça peut être des situations plus graves d'alcoolisme, de dépendance. Parfois, ça va jusqu'au suicide. Mais dans les cas de burn-out, notamment chez les cadres que j'ai pu étudier, souvent l'entreprise mettait ça sur le compte d'une faiblesse personnelle. C'est encore le cas. Hein. C'est pas du tout. Je l'ai entendu de cadres qui disaient « Ah mais oui, en fait, il avait des problèmes personnels, il avait des problèmes à la maison, il n'avait pas les épaules, etc. » Donc il y a quand même une difficulté à reconnaître que le travail est trop pénible ou alors il y a trop de pression, parce que du coup, c'est remettre en cause toute une organisation du travail. Et du coup, c'est beaucoup plus coûteux finalement de s'interroger sur le travail que de mettre la faute sur un individu. Et c'est vraiment ça qui est assez frappant, c'est-à-dire que c'est une forme de double morale où finalement on va inciter les gens à s'adapter au marché du travail plutôt que de remettre en cause un système qui va produire justement cette souffrance au travail.
Mais est-ce que, par exemple, le capitalisme ne serait pas quelque chose foncièrement masculin au départ ? C'est-à-dire le capitalisme dans l'ultra-libéralisme, dans le fait d'être effectivement un manager, d'être un type qui s'occupe, un chef d'équipe.
Luse.
Genre, ok, mais attendez...
Auteur de bande dessinée.
Est-ce que c'est pas quelque chose d'un petit peu enfantin, en fait ? Est-ce que c'est pas quelque chose qui renvoie plus au Playmobil plutôt qu'à la compétence ? Je sais pas. Et j'ai vu à quel point des gens comme Steve Jobs fascinaient aussi des gens qui étaient des mâles, qui étaient très obsédés par la compète, qui sont pas forcément des gens méchants, qui sont pas forcément des gens... mais qui sont... Steve Jobs ressemble à ce qu'il faut être. C'est-à-dire un type qui a tout réussi, un type qui est aussi un super-héros. Après, ces gros modèles culturels, pour moi, ils représentent de la fiction. Sauf Steve Jobs. Mais Steve Jobs, quand il a son pull à col roulé, c'est de la fiction. C'est-à-dire, justement, quand il se présente dans son uniforme, qui est un uniforme quelque part masculin, je veux dire, on peut même trouver... même une espèce de réalité prépucère dans le col roulé, en fait. Peut-être que, quelque part, il représente aussi un chibre, Steve Jobs, sur la photo.
Moi, ma façon de conceptualiser les masculinités, c'est comme une sorte de pyramide On en revient à l'idée de la compétition permanente qui existe entre les hommes. C'est une compétition pour être tout en haut de cette pyramide-là, d'être au-dessus,
Désir le tourneur,
au-dessus des autres mecs.
Essayiste.
Et en fait, être en permanence dans cette compétition pour tendre vers une idée qu'on a de ce que doit être un homme qui est généralement ne perd jamais, qui n'est jamais vulnérable, est toujours le premier, et ben c'est très facile de la remettre en cause, en fait, parce que tout simplement cet idéal, il est inatteignable. Et en fait, il suffit d'une petite remarque, un petit échec, une petite embûche pour les faire douter et les mettre sur la défensive. En fait, ils sont toujours sur la défensive et il faut qu'ils défendent leur place dans la masculinité.
Donc il y a une espèce de construction un peu étrange. Moi, je sais, je fais hyper gaffe à une construction que j'ai dans la tête, c'est la collection, par exemple. Je sais pas pourquoi, mais il y a une espèce d'obsession, en tout cas dans la musique, obsession du « je sais tout ». De l'omniscience. Genre, j'ai tout, même sur des choses assez ouvertes aux questions. Genre, j'ai tout David Bowie. J'ai tout David Bowie. Et je sais tout. Avec qui il a fait quel album, quel producteur, etc. Et des fois, c'est... Moi, quelque part, j'aime bien discuter musique, mais c'est hyper fatigant. C'est hyper fatigant, parce qu'il faut être au top. Il faut être au top. Même dans ce genre-là, en fait. Je veux tout savoir. Par exemple, un autre truc, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Moi, je connais certains mâles alpha qui sont pas vraiment des lecteurs. C'est pas des gens qui lisent beaucoup. Mais par contre, quand ils lisent, faut y aller, quoi. Faut y aller. Et c'est souvent, c'est genre des biographies. Biographies pour bien connaître tout le sujet, quoi. Genre Winston Churchill, par exemple, ou Napoléon, tu vois. Des grosses biographies qui font 700 pages, des trucs écrits petits, avec des notes, etc. Et faut que je sache, quoi. Il faut, si je m'intéresse à un truc, il faut que j'aille jusqu'au bout.
Une seule photo.
Alors, plus classique. Ouais. Donc, c'est un homme. Le cadrage, c'est des genoux au cou. Donc, on ne voit pas son visage. Il a les mains derrière le dos. Il est nu. Il a son sexe vraiment face à nous.
Au repos.
Au repos.
Mais d'une taille impressionnante.
D'une taille assez impressionnante. Voilà. Photo de téléphone.
Ce qui a motivé ma prise de vue est de vouloir sentir le frisson au moment même où ces photos seront exposées.
Oui, il a envie d'être vu, quoi. Il a envie qu'on voit son image, plutôt, là.
En tout cas, c'est un selfie et il a ressenti du désir, donc c'est érotique.
Tout à fait. Ouais. Et repos, du coup...
Bah non, c'est pas, du coup. Bah, enfin, en fait, il nous dit pas et je sais pas, tu vois.
Voilà. Toujours une question, c'est vrai que...
Voilà. Oui. Des fois, on ne sait pas, mais j'avoue que, tu vois, c'est aussi peut-être le... je suis pas en érection, mais mon sexe est énorme, mais en fait, je suis un peu en érection, mais je vous le dis pas, tu vois.
Ben, si on prend la chose d'un point de vue très bête et très scolaire, au sens des thématiques qui sont celles qu'on nous a inculquées dans l'enseignement secondaire.
Jean-Charles Macéra, artiste et écrivain.
On voit bien que l'essentiel des thèmes qui sont retenus, c'est le pouvoir, le désir. Et le désir plutôt dans un sens, dans le sens de celui qui écrit. Alors évidemment, il y a des actrices qui sont dans le jeu, mais elles sont regardées, elles sont écrites par le désir masculin, ou le rejet masculin, des questions de conquête territoriale. Donc on a quand même une littérature occidentale qui est très... avec des thèmes qui sont quand même les thèmes de l'organisation du monde vu par monsieur, quoi. Donc en fait, c'est pas des auteurs qu'il faudrait désinguer d'abord, ou les autrices qui ont joué le jeu, c'est un certain rapport au monde, à la conquête, au désir, à la violence de la sexualité. On est quand même dans une culture française où on nous a bassinés, enfin surtout les soi-disant avant-gardistes, et là je vais encore perdre trois copains à la minute, avec ce foutu cliché Artaud, Bataille, expérience des limites, violence du corps, qui sont juste des mecs qui écrivent comme ils éjaculent, quoi. Donc, avec une espèce d'écriture texte, de sex-texte bandant, ils en sont très fiers. Et c'est là où est la vraie littérature. C'est Artaud, c'est Bataille, c'est l'expérience des limites, c'est l'esthétique de la perte, de la jouissance et tout ça. Et tu dis, ouais, c'est sympa ton truc. Bon, déjà, ça limite quand même sérieusement la pensée du monde à un tout petit truc. Et c'est quand même une vision extrêmement petite et restreinte et peu dense de sens et peu ouverte sur l'émancipation et l'ouverture d'autres possibles et la découverte d'autres paradigmes de la question littéraire.
Et qu'est-ce que vous nous foutez là, monsieur Artaud ? L'homme, quand on ne le tient pas, est est un animal érotique. Il en lui un tremblement inspiré. Une espèce de pulsation productrice de bêtes sans nombre, qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu.
Alors, c'est une femme qui a pris la photo.
Ah, et on la voit sur l'image. C'est un duo, un homme qui a la tête entre ses jambes, les bras serrés sur son ventre à elle.
Il ferme les yeux.
Elle prend la photo, effectivement, au-dessus de son ventre et on le voit au fond.
C'est un câlin, quoi.
Ouais, c'est un câlin. Un câlin de sa jambe.
Je l'ai rencontré il y a 3 ans. Il avait 23 ans et moi 38. Tout a commencé comme souvent. La fête, les états modifiés de conscience, le rapprochement de fin de soirée. Et ça a continué sous la forme de retrouvailles éphémères 2 ou 3 fois par an. Le reste du temps, nous échangeons principalement par message, autour de la culture et pour se faire des blagues. Je ris beaucoup avec lui. Ce qui m'attire chez lui, c'est sa beauté, sa fraîcheur, sa spontanéité, son originalité. Il représente mon érotisme. Voulez-vous partager une histoire à propos de ces images ? Cette photo est une image tendre et douce de notre première soirée organisée pour nous deux. Nous venions de faire l'amour et il continuait de mêler son corps au mien dans tous les sens. Nous prenions du plaisir à nous regarder. À l'instant de la photo, j'ai pensé qu'il était magnifique, exactement à cet endroit. Si je le désire dans toutes les postures, j'ai trouvé qu'installé là, il était encore plus beau. Nous aimons regarder ensemble cette photo à chacune de nos retrouvailles.
Et c'est After Sex, on peut rajouter ça comme hashtag. On n'avait pas encore mis ça jusqu'ici. Mais en fait, il y a pas mal de photos qui sont prises après un rapport sexuel. Du coup, on met le hashtag After Sex. L'idée de faire un questionnaire et de lancer en fait une collecte qui a un projet militant et qui a un projet de recherche
Morgane Toko.
Avec une véritable enquête, c'était aussi de mieux comprendre ces pratiques-là.
Membre du collectif Lost in Men.
Mieux comprendre aussi pourquoi est-ce que ce regard intime reste dans l'intime. Enfin voilà, donc il y avait vraiment, je pense, une volonté de savoir aussi.
Et on avait aussi envie d'encourager la création de ces images. Et du coup, l'idée de faire cet appel, c'est aussi se dire qu'on sait que les images ont une puissance, qu'elles sont performatives, que les représentations, en fait, vont avoir de la place dans nos
vies.
Lucie
Brugier.
Et c'est ce qu'on a vu à certains moments de nos expositions aussi, des personnes qui nous disaient « j'aurais pas cru que ça puisse être quelque chose d'érotique ». L'idée, c'est que justement, les personnes puissent repartir aussi avec de nouvelles représentations qui soient ensuite effectives dans leur vie et qui leur permettent voilà, d'avoir une vision un peu plus libre de ce qu'ils et elles peuvent faire avec leurs désirs et leurs envies.
Alors Jul, moi de ce que je comprends de sa musique, c'est que il y a un lien qui est très fort entre la masculinité qu'il performe et son rapport au concept d'authenticité.
Clara Eich Delaborde, doctorante en sociologie.
Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'expression de sa masculinité, où il va se moquer parfois de l'hypocrisie de certains rappeurs qui se voudraient masculins selon les codes, on va dire, du gangsta rap. Il va tourner en dérision, donc la mise en scène d'une masculinité qu'il juge superficielle, il va aussi développer dans ses textes un registre très sentimental qui, c'est vrai, l'éloigne quand même des codes du gangsta rap, parce que en général, dans les morceaux de Jul, qui sont des morceaux d'amour, il n'y a pas vraiment de backlash sexiste, c'est-à-dire que c'est vraiment des chansons d'amour. Et dans ces morceaux, d'ailleurs, lui, il se met en avant comme aimant des relations simples, comme dans Ma Jolie, il dit « Je l'aime bien, elle est gentille et simple, pas besoin d'aller chercher en lambeau ». Dans la chanson qu'on vient d'écouter, il dit « Quand je vais la voir, je suis en Asics, en Kalenji ». Donc Kalenji, c'est la marque de Decathlon. Je crois que je vais rester avec elle jusqu'à lundi. Donc on sent que voilà, enfin moi je rattache ça à sa rhétorique plus globale de l'authenticité, où pour lui bah finalement une masculinité authentique c'est quelque chose d'assez simple finalement, proche de ce qu'il est réellement, et il n'a pas de problème à performer ça dans une rhétorique assez sentimentale, où on sent qu'il n'a pas forcément le contrôle. Dans Chiquita par exemple, qui est un de ses méga tubes, qui a vraiment extrêmement bien marché en termes de stream, d'écoute. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Il y a quelque chose où, c'est si elle me quitte pas, je la quitte pas. Enfin, on sent qu'il laisse une agentivité à la femme dans le rapport amoureux. Dans Mon Bijou, il dit « Je te veux à vie, t'es à moi, tu peux me laisser, t'as le choix ». Bon, il y a le « t'es à moi » qui est un petit peu territorialiste, mais « tu peux me laisser, t'as le choix » en même temps. Après, musicalement, quand même, juste pour le... Parce que Jul, c'est aussi une patte musicale. On sent qu'il y a une influence du rail, de la variété française, et l'autotune qui va lui permettre d'aller chercher des notes assez hautes et exprimer ses émotions, ce qui est un peu la classique recette de Jul sur un truc comme ça, un petit peu mélancolique, sentimental et en même temps solaire, quoi.
Numéro 28 de la collection française. Alors, il y a une seule photo, ce sera facile à choisir, mais que nous dit-elle ? Alors, c'est un homme dans un couloir armé de son aspirateur.
De dos,
nu. Lumineux.
C'est très lumineux, ouais. C'est un grand couloir avec du parquet, tout est jaune. Et il tient du coup son aspirateur, on voit son dos, ses fesses, c'est un homme blanc.
Il se tient assez droit.
Et il est en contre-jour, donc beaucoup de lumière, on dirait un peu très évanescent.
Alors, quel type de relation entretenez-vous avec la ou les personnes représentées ? C'est moi, en mon âme et conscience. Voulez-vous partager une histoire à propos de ces images ? Alors... Un couloir vers la lumière de la masculinité déconstruite, mise à nu vers un nouveau soi. Quelle était votre intention de départ ? Mon intention était de représenter l'essence de ce qui constitue, le long de l'humanité, notre ressemblance face au rituel du quotidien.
Okay, mais quotidien, on peut déjà le dire. Ouais, quotidien.
C'est un homme de 32 ans qui vit à Toulouse.
Et dans sa présentation libre, il dit « Homme libre de corps et d'esprit ». Chercheur en sciences sociales.
Ouais.
Très bien, mais là, il n'y a qu'une photo, du coup, pas besoin de choisir.
C'est validé.
Je suis en train de faire une thèse sur ce qu'on appelle la sexualité dite sans lendemain, qu'on appelle aussi parfois sexualité récréative, chez les jeunes hétérosexuels, principalement urbains et diplômés.
Daria Sobotchinska. Doctorante en sociologie.
Et c'est-à-dire que je m'intéresse à cette sexualité qui met en scène deux partenaires ou plus qui ont des relations assez courte durée, en tout cas qui sont pas prévues pour déboucher sur de la conjugalité. C'est ce qu'on appelle peut-être de manière un peu plus crue, mais peut-être plus claire, les plans cul ou les coups d'un soir.
Est-ce que la figure de l'homme déconstruit peut apparaître chez les personnes sur lesquelles vous enquêtez comme un modèle ?
Oui, tout à fait. Cette masculinité déconstruite, alors avec tous les guillemets du monde, c'est un modèle qui est revendiqué par mes enquêtés et c'est un modèle qu'ils cherchent à atteindre et à performer. Cette masculinité, donc, qu'ils décrivent comme déconstruite, ça va être une masculinité qui est jugée comme étant très contemporaine, très moderne, qui va plutôt s'inscrire dans des modèles égalitaires de la sexualité. Et parfois, on voit même des stratégies de distinction, même un peu classistes autour de ça, puisque ce que j'ai pu observer, c'est que dans les entretiens, il y a vraiment une distinction entre mes potes, c'est beauf, eux font différemment, mais moi, je suis pas comme ça, moi, je suis plus évoluée, plus civilisée, etc. Donc, il y a vraiment une mise à distance. Et la figure qu'il convient vraiment de mettre à distance en priorité, ça va être ce que mes enquêtés appellent le chien de la casse. On entend aussi parfois parler des charros, donc des charognards. Ce sont des expressions qui vont désigner des formes de masculinité qui sont très prédatrices, en fait, qui vont chercher à tout prix à multiplier les partenaires sexuels. Ce qui n'est pas un problème dans la sexualité sans lendemain, puisque c'est le concept même que de multiplier les partenaires, mais il faut le faire en prêtant attention aux partenaires, en faisant preuve de séduction, par exemple. Et donc, en fait, il y a tout un tas de petits éléments qui vont permettre de se distinguer au fur et à mesure de cette image du chien de la casse qui, elle, est vraiment à tenir à distance, parce que pas du tout valorisée. Mais en même temps, oui, cette masculinité déconstruite, elle est avant tout dans les discours. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que mes enquêtés sont malhonnêtes et qu'en fait, ils ne cherchent pas à incarner cette forme de masculinité déconstruite. Mais on constate que c'est pas parce qu'on cherche à incarner une masculinité déconstruite qu'en réalité, on sait parfaitement se détacher des normes. Et d'ailleurs, c'est une grande critique qui est faite en sciences humaines et sociales à cette idée de déconstruction. C'est qu'en fait, une fois qu'on est déconstruit, qu'est-ce qui se passe? On ne flotte pas, en fait, au-dessus de la structure sociale. Et donc, la stratégie pour se distinguer de la masse de partenaires sur ces applications de rencontres, c'est justement de mettre en scène des profils qui sont justement moins cash, moins brutaux, moins tournés autour de la sexualité. Parce que l'autre type de profil qu'on rencontre, ça va être justement ce profil qui est décrit comme des charros. Et là, on va être sur des profils qui sont beaucoup plus explicites sur la sexualité. Moi, j'en ai vu passer où c'est « je suis pas ton prince charmant, je suis là pour un plan cul et c'est tout, me prends pas la tête », enfin ce genre de choses. On est vraiment finalement très très cash. Et puis pareil avec des photos qui sont un tout petit peu différentes. Par exemple, on va avoir beaucoup plus d'hommes torse nu qui vont être à la salle de sport ou des choses comme ça. Donc on va beaucoup plus montrer finalement le physique et beaucoup plus tourner autour de la sexualité. Et ce que mes enquêtés me disent, c'est que cette masculinité-là, déjà, ils ne veulent pas l'incarner, parce que c'est pas ce genre de choses qu'ils valorisent. Mais ce qu'ils me disent aussi, c'est qu'ils ne peuvent pas l'incarner. Et donc, il y a un peu ce double discours entre, d'un côté, je ne veux pas incarner cette masculinité-là, parce que c'est pas une belle masculinité, c'est pas une masculinité qui est contemporaine, et de l'autre côté, en réalité, je ne peux pas l'incarner, parce que j'ai pas le charisme, j'ai pas le bagou, etc.
Pour comprendre en fait ce renouvellement des masculinités et cette transformation du discours d'inquiétude qui permet donc de repositionner les bonnes masculinités, alors j'emploie le bon au sens de normes masculines, c'est qu'il faut regarder aussi les masculinités qui sont repoussées.
Mélanie Gourarier.
Qui sont dévalorisées, dépréciées.
Anthropologue, chercheuse au CNRS.
Et celles-ci, elles sont assez caractéristiques finalement des masculinités racisées et populaires, puisque ce serait une expression trop violente, trop frontale, trop directe, d'une masculinité jugée trop virile. Alors, par exemple, on voit à quel point sont systématiquement pointées des paroles issues du rap, par exemple, et pas du tout des paroles issues de la variété française. On va pas envisager des paroles complètement similaires qui s'expriment certes pas dans le même vocabulaire, mais qui disent la même chose. On va pas les envisager selon les mêmes standards. C'est cette question-là du standard aussi qui est déterminante. Et du coup, cette masculinité policée, je dirais, elle se rejoue sur le dos des masculinités ségrégées qui vont en fait tirer par ailleurs un nouveau stigmate du fait qu'elles ne soient pas assez modernes, justement, ces masculinités. Et en fait, ce jeu-là aussi, il faut le regarder comme ça. C'est-à-dire que pour comprendre ce qui se joue dans les masculinités actuelles, il ne faut pas seulement regarder ce qui se joue dans le rapport homme-femme. Il faut regarder ce qui se joue dans le rapport entre hommes. C'est-à-dire comment des hommes tirent aujourd'hui des bénéfices de leur repositionnement dans l'échelle des masculinités et comment des hommes, au contraire, en fait, se retrouvent doublement stigmatisés parce que n'incarnant pas la bonne masculinité. C'est-à-dire que cette volonté de s'identifier à un bon modèle, elle n'est pas que morale, en fait. Elle n'est pas que altruiste, elle n'est pas que éthique. Elle est aussi, elle correspond à un désir de reclassement social. Un désir de reclassement social dans le sens où qu'est-ce que c'est qu'être un homme bien ? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme bien ? La question c'est qu'est-ce que c'est qu'être un homme bien positionné dans l'échelle sociale ?
Mec entre 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 mec.
Est-ce que ça ferait pas un an exactement qu'on a commencé entre mecs ?
Je crois même ça fait un an et un jour.
Je trouve qu'on a déconstruit grave de trucs. Moi, je trouve que, en vrai, tu vois, je croyais vachement en cette série où moi, je commençais déjà à déconstruire des trucs de masculinité et tout. Et je pensais pas que ça m'aiderait autant à ce point-là. Et en vrai, en un an, c'est ouf tout ce qu'on a déconstruit. Et en fait, je vois tout le chemin parcouru chez moi en un an. Et je vois tout le chemin qui reste à parcourir de ouf. Là où je m'étais dit, ouais, je suis trop déconstruit, etc., tu vois. Et ben, en fait, je me suis rendu compte là.
J'ai l'impression que cette figure de l'homme déconstruit, on en parlait déjà. avant dans les milieux féministes, mais elle a vraiment explosé sur la scène médiatique publique en 2017 avec MeToo.
Daisy Le Tourneur.
Et où il y a eu une prise de conscience assez large de l'ampleur des violences sexuelles infligées aux femmes par les hommes. Et il y avait énormément de gens qui se sont dit « Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et est-ce que la solution, ce serait pas un homme nouveau, en fait ? Et est-ce que cet homme nouveau, ce serait pas l'homme déconstruit, l'homme qui a lu des féministes, l'homme qui est sensible, l'homme qui est attentif au fait que sa partenaire a joui ? Cet homme qui aurait tout un tas de qualités qui ferait que, en fait, on peut continuer avec lui à être hétérosexuel tranquille. Et l'homme déconstruit apparaît comme une réponse à cette question-là, une sorte de passe-droit qui permettrait d'avoir une relation égalitaire au sein d'un système qui ne l'est pas du tout. Et moi, je pense que c'est pas forcément un mal qu'il y ait des hommes qui remettent en cause les injonctions patriarcales. Je pense qu'il y en a plein à qui ça peut faire beaucoup de bien. Peut-être que ça fait des meilleurs partenaires pour mes copines. Je pense que c'est malheureusement aussi un moyen de perpétuer les choses en mettant un nouveau coup de peinture sur la guillotine.
Donc la question de la déconstruction. Donc là, un homme profilé, ce serait celui qui transgresserait aussi, par ailleurs, les normes de genre.
Francis Dupuy-Déry.
Je ne dis pas que ce n'est pas significatif, ça peut même être important et intéressant.
Professeur en sciences politiques.
Ça peut créer une sorte de trouble dans le genre, pour prendre l'expression de Judith Butler. Mais c'est sûr qu'il y a un risque de rester au niveau de la surface, ou de la pose, ou de la mise en scène de soi, mais sans rentrer là, dans le cœur ou dans la densité réelle des rapports entre les hommes et les femmes. Et moi, quand j'entends des hommes profilistes et tout, quand j'entends des hommes qui disent « je suis cela ou cela », je me demande tout le temps quel genre d'avantage leur procure leur proféminisme. Les féministes savent très bien qu'il y a des hommes proféministes qui circulent dans leur milieu, qui consomment sexuellement des corps les uns après les autres et après les autres et après les autres, et qui laissent derrière eux des femmes plutôt en mauvais état. Bref, il y a plein d'enjeux comme ça qui se traduisent par des effets négatifs pour les femmes. Et donc, la logique de la déconstruction, ça peut être une mise en scène de soi, mais qui n'a pas d'impact sur les relations concrètes avec les femmes.
Le Purple Fucker. Son grand-père se contentait de jouer de la guitare une chanson des yéyés aux filles autour du feu, son père de faire gober un ou deux extasies à ses voisines de tente les nuits de Technival. Lui se met du vernis de couleur vive sur les ongles et une rivière de strass sur sa chemise cintrée mauve, puis s'arrange pour que l'on voit dépasser de son sac un titre de Mona Chollet ou King Kong Theory. Il a des dents très blanches. Lorsqu'il prend la parole, il la demande avant. Ainsi se glissent dans les rangs des manifs féministes de nouveaux petits malins qui savent comment séduire au milieu des banderoles. Parfois, il pousse le vice jusqu'à écrire son propre livre sur le plaisir féminin, des femmes peintres trop longtemps invisibilisées, enregistre des podcasts sur l'endométriose ou tient une conférence sur la meilleure façon de rendre intersectionnelle l'expérience du polyamour.
Peut-être faut préciser que Purple Fucker, d'où vient Purple ?
Ah oui, parce que c'est la révolution violette, il y a le purple washing aussi, comme il y a le green washing, c'est-à-dire quand on utilise le féminisme à des fins commerciales ou de valorisation de soi-même ou d'une cause qui n'est pas féministe à la base.
Chloé Delhomme, romancière.
Chez les plus âgés, le Purple Fucker ne va pas se purpeliser, mais il va agir en faillot ou en faux allié, il faut se méfier quand même. C'est un terrain excessivement miné, c'est normal, c'est un peu tendu en ce moment et les rapports de séduction sont très très tendus aussi. Donc les loups cherchent les bergeries avec tous les moyens possibles.
Alors, proposer la déconstruction masculine et appeler un homme nouveau, ça semble une bonne idée. On pourrait dire pourquoi être contre. Mais donc moi, j'ai retrouvé des traces de l'expression même de homme nouveau au 19e siècle. Donc là, ça veut dire que ça fait 150 ans qu'on a des hommes nouveaux, ça fait 150 ans que les médias nous font des dossiers « Oh, les nouveaux hommes ». Donc, il y a les nouveaux hommes, il y a les nouveaux pères. Nous, au Québec, dans les années 80, on appelait ça les hommes roses. Et puis là, on va trouver des preuves. Ah ben, au 19e siècle, il y avait des hommes, ils font les tâches ménagères, ils s'occupent des bébés. On voit des hommes qui portent des boucles d'oreilles, on voit des hommes qui portent des jupes, on voit des hommes qui se vernissent les ongles, etc. C'est tellement extraordinaire, c'est la fin de la masculinité, et on est dans un monde nouveau. Donc ça, c'est la première mise en garde, c'est que cette nouveauté, c'est une illusion. Comme Garance disait, il n'y a rien de plus ancien que la nouveauté dans les enfants du paradis. De dire que ça fait 150 ans, c'est aussi une mise en garde, dans le sens, c'est pas juste une question qu'on est bluffé par rapport à la nouveauté, c'est que de toute évidence, ces nouveautés-là, elles ont eu très peu d'influence en réalité sur les rapports sociaux entre les hommes et les femmes, puisque ça fait 150 ans qu'il y a des nouveaux hommes, mais les statistiques montrent que par rapport aux différences de salaire, par rapport à la place des femmes dans les institutions de pouvoir, par rapport au partage des tâches domestiques et parentales, par rapport à la violence masculine contre les femmes, par rapport au féminicide, etc., c'est bizarre, les choses bougent beaucoup moins que ce que les médias nous laissent entendre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on parle de nouvelle masculinité, moi, mon problème avec ça, c'est qu'on est encore dans une logique de masculin-féminin. Et je pense que tant qu'on pense en termes de masculin-féminin, en termes d'identité importante et forte, je sais bien qu'il y a des hommes et des femmes en termes de différences génitales, comme il y a des grands et des petits, il y a des gens qui ont des cheveux, pas de cheveux, il y a des gens qui ont les yeux bleus, pas de yeux bleus, il y a des gens qui sont aveugles d'ailleurs. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que ça, c'est des différences anatomiques et biologiques qu'on constate? Ou c'est des différences auxquelles on associe des rôles et des fonctions et des valeurs et une éthique et qu'on les politise finalement. Et donc c'est ça le problème, c'est que quand on dit il faut repenser la masculinité, on est en train de repenser le modèle, mais en fait avec les mêmes outils. Et moi j'entends souvent par exemple l'idée que on va repenser la masculinité en incorporant des éléments de la féminité. Oui, mais là, c'est parce qu'on reste dans les archétypes. Donc, l'archétype féminin, il y a l'archétype masculin. Fait que là, on fait une masculinité un peu hybride en intégrant de la féminité, mais ça veut dire qu'on a encore des référents qui nous disent les femmes, c'est ça, et les hommes, c'est ça. Et donc, on n'a pas transgressé la binarité, on l'a reconduit en l'accommodant.
Je ne sais pas si un homme peut se déconstruire. En tout cas, les hommes que je connais, je ne sais pas s'ils peuvent se déconstruire. Peut-être qu'ils peuvent muter. Peut-être que c'est la logique à la fois sociale, génétique, hormonale. C'est qu'à force... on change. À force, on mute. À force de se dire que peut-être la puissance n'est pas une définition de soi, peut-être on peut devenir un autre homme. Je pense plutôt à cette vision un petit peu science-fictionnelle, en fait. Mais je dis pas que j'ai du mal avec l'adjectif déconstruit. Je me dis que moi, j'ai du mal avec l'idée que l'on me définisse comme étant un homme. Donc, être un homme construit ou déconstruit, je crois que quelque part, on s'en fout, en fait. Je pense que c'est plutôt... qu'est-ce que c'est que d'être un être humain qui vit avec d'autres êtres humains ? Voilà.
Le but du jeu, c'est la delphité. On n'est pas pour un matriarcat, on n'est pas pour asservir les hommes, on n'est pas dans un truc de vengeresse hystéro avec des serpes. On va couper les couilles de personne. Même si dans mon prochain livre, je fais exploser des bites.
Ah oui?
Oui, ça s'appelle Phaleurs. C'est comme Scanners de Cronenberg. Elles ont le pouvoir psychique de faire exploser les phallus des prédateurs, les filles dedans. C'est une façon de traiter de comment peut-on faire en sorte que les hommes cessent de violer, mais avec humour.
Adelphité, juste pour définir.
Adelphité, ça vient d'Adelphes, c'est frère et sœur en grec. Donc en fait, c'est... à la fois fraternité et sororité en mixte. Voilà, et je crois que c'est vraiment le but du jeu. C'est pas qu'on aboutisse à une société clivée à l'envers, quoi. Les femmes aujourd'hui n'ont pas pour aspiration à avoir le pouvoir, mais à faire en sorte que les hommes partagent le pouvoir, ce qui est très différent.
L'idéal est assez, pour moi, flou. Dans le sens où je pense que on vit dans une société où l'organisation de la société est si fondamentalement divisée entre les hommes et les femmes que imaginer demain un monde où ça n'existe plus nous paraît improbable. et défie nos capacités d'imagination, mais je ne crois pas à l'idéal. Je pense que ça se construit davantage au jour le jour, au fil des luttes et des révolutions. Après, je suis quand même persuadé que effectivement, on doit aller vers un monde où ce qu'on a entre les jambes à la naissance ne déterminera pas notre vie future. Et je pense que ça paraît incroyable pour un certain nombre de personnes qui vont vous dire que oui, mais il y aura toujours des personnes qui ont des règles et des personnes qui n'en ont pas. Il y aura toujours des personnes qui portent des enfants et des personnes qui n'en portent pas. Mais par le passé, on a organisé notre vie et nos sociétés selon des différences qui paraissaient naturelles et indépassable, et que aujourd'hui on a quand même mis un sacré coup dans l'idée qu'il y a des races biologiques qui détermineraient absolument tout de notre vie et notre place dans la société. On a mis un coup dans l'idée qu'il y a une noblesse naturelle. On a mis un coup dans tout un tas d'inégalités par le passé. Ça veut pas dire que le travail est fini, loin de là, mais on peut le faire.
Il sort des remous, c'est assez beau. On dirait une sirène, en fait, une sirène échouée.
On n'a pas le bas de son corps, du coup, on pourrait imaginer.
Bah ouais, moi j'imagine une sirène. Ça me fait un peu peur, on dirait qu'il est... J'aime pas qu'il est noyé, non ?
Non.
Non, tu vois pas ça ?
Ah ouais, moi j'ai l'impression qu'il résiste face aux éléments.
Oui, c'est vraiment ça.
C'est un homme blanc, chauve, avec beaucoup de tatouages. Il a un gros aigle, on dirait, sur le bras. Et donc, il est allongé sur le sable noir avec la vague qui vient le recouvrir. Et c'est une femme qui a pris la photo. Du coup, quelle est leur
tu veux que je lise ?
Relation.
Alors, c'est beau ce qu'elle écrit là. Donc, elle écrit « Comme beaucoup, je pense qu'il est imminent, urgent et politique de changer la forme de nos désirs. » Et quoi de mieux que de participer à la création d'un nouvel imaginaire. Le jour déclinait, la lumière était belle, Seb jouait dans les vagues depuis de bonnes minutes. J'étais fascinée par le contraste entre ses tatouages, la puissance des vagues et sa sensibilité que je connais. Sa corpulence frêle, la lumière douce se reflétant sur les vagues. Sa manière de jouer était si enthousiaste et vulnérable. J'ai voulu capturer ce moment.
Être un bonhomme, dernier épisode, performer des modèles. Une série documentaire de Romain de Bec de Lièvre, réalisée par David Jakuboviez. Avec Guillaume Vallet, Daisy Le Tourneur, Michael Delis, D de Cabal, Luz, Clara Hesch de la Borde, Jean-Charles Massera, Daria Sobocinska, Mélanie Gourarier, Francis Dupuis-Derry et Chloé Delhomme. Merci à Lucie Brugier, Laura Lafont et Morgane Tocco du collectif Lusted Men pour leur accueil et leur sélection d'images. Merci aussi au lycée Jacques de Cour à Paris, à Bruno et à l'association La Boule Ricaudoise.
Oui, elle est partie. Elle est partie.
Prise de son, Yann Frécy, Jeffrey Marianne, Marie Le Peintre, Jean-Guilain Meige et Marie-Claire Oumabadi. Mixage, Éric Villenfin. Documentation, Anne-Lise Signoret, documentation musicale, Pierre Plantin et Loïc Delacour. Coordination, Johanna Bedeau, chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales.